Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
On retrouve Bruno Dussaussois et son invité Emmanuel Leroy-Ladurie de l'Académie des sciences morales et politiques dans une série de 6 émissions consacrées à l'histoire du climat.
Après nous être cantonnés à la période de la Révolution française lors de notre précédente émission, nous allons nous livrer à un exercice plus ambitieux en naviguant sur l'échelle du temps. Après l'événement, place à la longue durée. Quant à l'espace, nous nous contenterons du territoire hexagonal. Au menu cette semaine, la politique et le climat. Et plus précisément, ce que vous appelez, Emmanuel Leroy-Ladurie, la politisation du climat. Autrement dit, comment nos gouvernants, qu'ils soient rois, empereurs ou présidents, ont pris en charge les divers problèmes de subsistance consécutifs aux mauvaises conditions climatiques. Remontons le temps jusqu'à la fin du règne de Louis XI, en 1481 exactement, année pourrie climatiquement parlant. Contrairement à ses prédécesseurs, Louis XI réagit, prend des mesures. Pouvez-vous d'abord, Emmanuel Leroy-Ladurie, évoquer cette année 1481 sur un plan météorologique et subsistentiel, et puis nous dire ce que fit Louis XI précisément?
En réalité, il faut prendre les choses un peu plus haut. Disons que la grande famine de 1315, la monarchie n'a rien fait du tout. Il n'y avait pas vraiment d'État. En revanche, ce que vous avez ensuite, ce sont les guerres de Cent Ans et les grandes famines météorologiques, d'origine plutôt de froid, de pluie, etc., 1432 et 1439, mélangé bien sûr à des facteurs beaucoup plus importants qui sont les pestes et les guerres anglaises. Et là, la population de la France, dans un complexe immense qui dépasse très largement le climat, passe de 20 millions de personnes avant la peste noire, dans les années 1340, à 10 millions en 1450. Puis après, ça va mieux, on remonte de 10 millions à 20 millions, qui est le chiffre calibré normal, de la deuxième moitié du 15e au 16e siècle. Il y a quand même des accidents. Et parmi ceux-ci, Louis XI, qui était assez capable, connaît, enfin, surtout ses sujets, connaissent en 1481,
à la fin de son règne.
Oui, une espèce d'assez grosse crise de subsistance, de famine, due probablement à un grand hiver et, comme toujours, à un excès de pluviosité. C'est pas tragique, parce qu'attention, c'est les 50 glorieuses. Nous sommes la grande reconstruction de la France après les guerres de Cent Ans. C'est une formidable période au point de vue du gothique, au point de vue artistique et tout. Enfin, il y a des gros accidents.
Construction de l'État aussi.
Oui, enfin, Louis XI lui-même est devenu un roi beaucoup plus populaire depuis le livre de Kendall de 1971. Et alors là, il prend des mesures surtout plus ou moins réellement appliquées. Enfin, au moins, il essaie de faire quelque chose d'interdiction des exportations et de contrôle des spéculateurs qui tendent à accumuler le blé. C'est pas une catastrophe épouvantable comme c'était sous la guerre de Cent Ans, où tout se mélangeait à la fois, la guerre, la peste, et quand même un petit peu le climat. Et alors, par la suite, on a une situation...
Oui, si on peut maintenant parcourir un peu les siècles
alors,
on a jusqu'à
pas,
nos
pas,
jours.
Pas tous, évidemment. On a les affaires de 1528-1529, qui sont des années pluvieuses, de mauvaises récoltes, et qui sont un tournant, parce que la démographie française ascendante, on passe des 10 millions aux 20 millions d'habitants, bute de temps en temps sur un plafond de subsistance insuffisante, et en particulier, c'est la grande rebelle, la grande révolte lyonnaise de 1528, avec évidemment une sorte de prolétariat assez complexe de typographes à Lyon. Mais les choses intéressantes, c'est les guerres de religion par rapport aux guerres de Cent Ans. Les guerres de Cent Ans, dans un contexte de peste et autres, font plonger la population française de 20 millions à 10 millions. Les guerres de religion, 1560 à 1595, on reste aux 20 millions. Donc c'est très dur, mais c'est pas pareil. Et l'on a quand même 5 crises de subsistance importantes qui, évidemment, se mélangent à des histoires de peste, à des histoires de guerre. De mémoire, je dirais 1562, 1565, je crois 1573, 1586 et 1595. Et il y a deux phénomènes très intéressants. C'est comme la Ligue, je suis le seul à le penser, mais enfin je crois, que la Ligue parisienne de 1588, un peu comme 1848, surgit après une crise de subsistance de 1586 et de 1587, et donc il y a quand même, malgré tout, un arrière-plan à cette révolte politique. Et puis 1595, c'est la pièce de Shakespeare, ou dans l'une de ses comédies, tire parti justement de la...
N'est-ce pas le songe d'une nuit d'été?
Le songe d'une nuit d'été, bien sûr. Tire parti de la crise de subsistance anglaise de 1595-1596. Du reste, il y a peu de crises de subsistance en Angleterre, puisque c'est un pays qui a à la fois une agriculture meilleure que la nôtre à l'époque, et puis une marine qui permet d'importer du blé. Mais enfin, vous en avez à cette époque, vous en avez ce qui s'appelle une famine, il ne faut rien exagérer, en 1622, puis un contexte en Angleterre de food, ce qu'on appelle des food riots, d'émeutes de subsistance qui, même quand la chose n'est pas gravissime, donne un contexte à la formation du syndicalisme anglais, du mouvement ouvrier anglais. C'est surtout Hobsbawm et puis un autre auteur anglais qui l'a montré.
On peut continuer, avancer encore dans le temps. Est-ce que vous avez d'autres exemples qui, selon vous, sont exemplaires de cette politisation du climat ?
Oui, tout à fait. Alors, vous avez effectivement la Fronde. Je pense à la Fronde parlementaire de 1648 à 1650, qui n'a rien à voir avec le climat, je m'apprête à le dire. C'est un mouvement de magistrats accompagné d'un mouvement populaire à Paris et dans les villes de province. Mais enfin, il n'y a pas de doute que ce sont trois années pluvieuses, que les mouvements populaires de 1648 n'ont rien à voir, mais que peu à peu, ça se pénètre de causalité et météo. Et en particulier, en 1649, un grand hiver, une année pluvieuse, en Angleterre, on décapita un roi, bon, toutes sortes d'autres causalités, mais il n'y a pas de doute que la situation sociale est très dure en
1649.
Angleterre. En 1649, et en France également. Sous Louis XIV, finalement, ça marche mieux que sous les guerres religieuses. Mais on a quand même trois famines importantes. Celle de 1661, déclenchée par des pluies excessives. Alors Bossuet tonnait contre les riches. La grande famine de 1693, dont j'ai dit quelques mots, avec son 1 300 000 morts. Dans l'entre-deux, les choses s'étaient bien passées. Et enfin, le grand hiver de 1709, qui tue les blés en herbe et qui provoque, au printemps de 1710, 630 000 morts supplémentaires.
Mais alors comment réagit Louis XIV en 1709 ?
La grande nouveauté, c'est que cette fois-ci, le pouvoir s'y intéresse. Alors déjà, Henri III avait distribué quelques sous au moment des émeutes de subsistance, il a fait ce qu'il avait pu, pas grand-chose. Les intendants qui apparaissent sous Richelieu s'intéressent nécessairement, comme les préfets, si vous voulez, aux crises de subsistance, mais c'est surtout Louis XIV et Colbert qui, à partir de la famine de 1661, cette fois-ci prennent les choses en main, font des importations de blé, alors en provenance soit de la Baltique, soit de Bordeaux, puisque le sud était beaucoup moins éprouvé. Ça donne ce que ça donne, tout le monde dit que le blé est pourri. Et depuis ce temps-là, la France a une politique frumentaire qui a été continuée avec les intendants sous Louis XIV, au XVIIIe siècle, sous Louis XV, à la fin de l'Ancien Régime, on a un système très perfectionné d'estimation des récoltes, au point que les 20 dernières années avant la Révolution, on peut faire pratiquement une courbe de production agricole. En 1802, Bonaparte a une crise de subsistance qu'il traite avec les moyens dirigistes que réprouvaient les libéraux, puisqu'on avait libéré le commerce du blé en 1764. Puis en fait, il a fallu quand même remettre des règlements assez rapidement. Alors la grande affaire, grande petite affaire en fait, c'est l'explosion du volcan Tambora en Indonésie en avril 1815, qui produit une année sans été.
En 1816.
Sur la planète, en 1816. Et alors, des phénomènes assez graves quand même de crise de subsistance en Italie, en Bavière, qui étaient des pays pauvres. En France, il y a 30 000 morts de plus, c'est pas méchant. C'est méchant, mais on a vu pire. Et en Angleterre, un mouvement ouvrier déjà assez fort, au cri de « bread or blood » ou « bread and blood », je me rappelle plus très bien.
Voilà donc. Par exemple, sous Louis XVI, c'est avec Turgot, je crois, on libéralise plutôt.
Oui, alors, avec Turgot, oui. Mais c'est surtout sous Louis XV, en 1764, les idées libérales arrivent au pouvoir, c'est la libération du commerce du blé. Et alors, Michelet, c'est pas ce qu'il a écrit de mieux, le blé, ce prisonnier est enfin libéré, alors qu'en fait, c'était pas du tout le problème, c'est ben, quand on avait des crises de subsistance. Mais très vite, les mauvaises récoltes sont déjà revenues, vont revenir, ça c'est pas catastrophique du tout. Mais en 1770, c'est la chute du libéral Choiseul, c'est l'arrivée au pouvoir de Maupoux, bon, c'est le coup d'état de Maupoux, ça c'est autre chose, mais avec un économiste dirigiste, qui est l'abbé Théré, et qui remet en vigueur, en 1770, les contrôles sur le commerce du blé. Et alors, en 1775, donc, Turgot libère le commerce du blé en fonction de ses idées. Malheureusement, il tombe mal, puisqu'il y a, enfin, c'est pas très méchant, une petite crise de subsistance en 1775 qu'on a appelée la guerre des farines. Et la Constituante libère le commerce du blé, mais très vite, les Robespierristes, d'une part, Bonaparte, d'autre part, sont dirigistes. Et au fond, c'est seulement un Crémombard, je crois, qu'on libérera tout à fait le commerce du croissant, mais ça, c'est un peu trop tard.
Mais par contre, sous l'Ancien Régime, pour en rester à l'Ancien Régime, on a même parlé, sous les années Louis XV, Louis XVI, de complots, de famine, n'est-ce pas ? On disait que les rois spéculaient sur le grain, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
C'est une blague, comme l'a montré Steve Kaplan, historien américain, il n'y a pas de complot de famine, il y a des spéculateurs. Mais surtout, il y a une politique du blé qui est très intelligemment menée et qui permet quand même de limiter les dégâts, puisque, au fond, la dernière grande crise de subsistance, et qui n'est pas du tout comparable à celle de 1693, avec son 1 300 000 morts en 1709, c'est celle de 1740, avec un hiver très froid et un printemps en été pourri. Et il y a le fameux texte de ce curé Auvergnat qui écrit à son intendant, fin de l'hiver 1740, il dit « Monseigneur l'intendant, je suis embêté puisque mes paysans dans mon village font une possession sexuelle de leurs bestiaux parce qu'ils ne veulent pas mettre leurs femmes enceintes. » Alors il y a ce merveilleux style du XVIIIe siècle, leurs femmes leur font de doux reproches. Dit le curé. Mais les paysans, mais assez mal, disent bah, écoute, c'est pas possible, je ne peux pas te remettre enceinte. Et puis alors, ils prostituent leurs femmes, ce qui est assez classique. Mais c'est l'Auvergne, hein, qui est quand même une province pauvre. À Paris, les choses se passent moins mal quand même. Sinon, les moments difficiles, évidemment, ce sont les deux guerres mondiales. Alors là, on est remis dans des conditions d'ancien régime. Alors c'est surtout le grand hiver que n'était pas un hiver, c'est méchant, mais enfin, qui a été pour les Allemands très pénible, de 1917. Et comme il y avait le blocus, comme les autorités allemandes ne s'y étaient pas bien parées, il y a quand même, je ne dirais pas une famine, mais enfin une situation alimentaire extrêmement mauvaise en Allemagne. Et c'est une des causes de la révolution allemande. Bon, ça ne vient pas simplement de cet hiver, c'est évidemment une situation globale. La révolution allemande, la fin de la guerre de 14, et une agitation sociale très importante. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, au contraire, Hitler va se débrouiller pour se ravitailler en Europe. Et il n'y a pas de gros problèmes alimentaires en Allemagne, mais c'est surtout après la guerre. Car alors là, il y avait des aménorrhées de famine chez les femmes, l'absence de règles, mais en Allemagne, on parle d'aménorrhées d'après-guerre, en 1946, parce que là, ils ont souffert.
Le 20 juillet dernier, pour terminer, Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre de l'écologie, a présenté un plan national d'adaptation aux effets du changement climatique qui sera révisé tous les 5 ans. Est-ce qu'on peut voir là une nouvelle illustration des rapports entre la politique et le climat ?
C'était assez courageux de sa part. C'était au moment d'un été pourri, où l'impression, au contraire, que non pas le climat, mais que la météo se rafraîchissait. Et c'est un grand argument des adversaires du GIEC, disons, c'est, voyez, on nous dit que le climat se réchauffe et on patauge tout le temps dans la neige. Évidemment, c'est idiot, puisque ce qu'il faut voir, c'est l'échelle planétaire. En tout cas, Mme Kosciusko-Morizet a été en effet très courageuse de présenter ce plan, alors qu'il y a un certain scepticisme français vis-à-vis du réchauffement. Je crois que, bon, je ne veux ni nommer ni attaquer personne, mais enfin, que la propagande anti-GIEC a tout de même fait des ravages en France.
Et en Allemagne... Vous précisez, hein, vous êtes... Vous vous rangez du côté...
Alors, attention, je n'ai pas à manger. Moi, je suis un historien, je ne suis pas un scientifique. Mais enfin, il se trouve que je connais assez bien le dossier. Et il me semble que les arguments du GIEC sur le réchauffement sont exacts. Mais attention, c'est aux scientifiques qu'il appartient de se prononcer. Ce n'est pas à moi.
Merci Emmanuel Leroy-Ladurie. Citons pour terminer votre dernier livre, 33 questions sur l'histoire du climat du Moyen-Âge à nos jours, écrit en collaboration avec Anouchka Vazak chez Fayard dans la collection de poche Pluriel. Et sur le règne de Louis XI, je renvoie à votre livre « L'état royal de Louis XI à Henri IV, 1460-1610 », qui est en fait le deuxième tome de l'histoire de France Hachette, dirigé par François Furet, qui avait rassemblé autour de lui Georges Duby, Maurice Agulon et vous-même pour mener à bien cette vaste entreprise. La prochaine fois, c'est d'accidents climatiques que nous parlerons, des grands hivers aux canicules, en passant par les inondations. Au revoir.